viens dîner chez moi.
Bonsoir, bienvenue à ce nouveau rendez-vous Pôle Info Santé ici, créé il y a 20 ans maintenant. C'est un rendez-vous qui est le fruit du partenariat, je le répète à chaque fois qu'on se voit, mais c'est important. Puis il y a des petits nouveaux sûrement aujourd'hui, il y a des têtes nouvelles que je n'ai jamais vues. Et puis il y a des fidèles aussi, hein. Il y en a qui sont là à tous les rendez-vous Pôle Info Santé. Merci d'être là. Donc c'est, je le disais, le fruit d'un partenariat entre le CHU, dont une des missions est l'éducation à la santé, puis l'Espace Mendès France, qui est un centre de culture scientifique et qui a pour objectif donc, de vous informer, de nous faire apprendre plein de choses. Le rendez-vous va vous permettre d'échanger avec des professionnels qui sont assis à cette table du milieu de la santé, du milieu hospitalier et généraliste. Alors nos intervenants vont, je vais vous les présenter, ils vont vous proposer un petit exposé chacun d'une dizaine de minutes. Et puis ensuite, on vous donnera la parole, je passerai dans les rangs pour récupérer vos questions, celles que vous avez. Alors je vous demanderai évidemment, parce que les professionnels qui sont là n'ont pas vos dossiers médicaux, donc d'essayer de généraliser un maximum vos questions et de ne pas faire des cas trop personnels, parce que sans les dossiers c'est un peu compliqué, ça va être un peu compliqué pour eux de répondre. Si vous êtes un petit peu timide, je vous explique qu'il y a une façon plus simple de poser vos questions. La thématique de la soirée, je pense que vous la connaissez, les incontinences urinaires. Alors, pour les questions, donc, soit il y a le micro, soit le petit papier. Théoriquement, dans les dossiers que vous avez, il y a des feuilles, il y a une feuille, un feuillet pour poser votre question. Comme je vieillis au fur et à mesure des années, comme tout le monde, écrivez le plus gros possible pour que je puisse vous relire facilement. Parce qu'il y en a qui écrivent tout petit et c'est de plus en plus compliqué pour moi. Il faudra penser à faire un pôle info santé sur les problèmes de... vous avez également donc entre vos mains des documents qui résument un petit peu tout ce qui va se passer ce soir, qui sont aussi des compléments d'information. Donc vous pouvez les lire. Il y a aussi une fiche d'évaluation, alors elle est très importante. Là aussi j'insiste systématiquement à chaque rendez-vous pôle info santé, parce qu'en fait cette fiche... elle est là pour nous aider à améliorer chaque fois le rendez-vous, faire du mieux possible que l'on peut entre le CHU et l'Espace Mendès France. Donc n'hésitez pas à mettre vos petites remarques si vous avez trouvé que c'était trop long, trop court, que l'animateur était excellent, que voilà, vous mettez tout ça. Cette conférence est traduite également à l'intention d'un public sourd. Bonsoir à vous. Je vous demanderai également d'éteindre vos portables, en tout cas de les mettre en vibreur pour qu'on ne soit pas dérangé. Donc pendant cette conférence. Alors, qu'est-ce qu'on appelle l'incontinence urinaire? Est-elle réservée uniquement aux personnes âgées? Les traitements? La vie au quotidien? Voici quelques thèmes que l'on va développer, évidemment, ce soir. Je vous souhaite donc la bienvenue à cette 102e édition conférence Pôle Info Santé, aujourd'hui à l'Espace Mendès France. Et on va accueillir donc nos intervenants. Et par ordre de passage au micro, on va accueillir d'abord Stéphanie Grand-Collin, qui est médecin généraliste. Bonsoir. Il y aura aussi le professeur Xavier Frittel, chirurgien gynécologue. Bonsoir. Bonsoir. Le professeur Jacques Irani, qui est chef du service d'urologie. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Michel Pavy-Lebrun, qui est kinésithérapeute et spécialiste en périnéologie. Bonsoir.
Bonsoir.
Ils vont donc chacun leur tour intervenir et vous parler du sujet de ce soir. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve dans une trentaine de minutes maintenant pour échanger avec vos questions. Et Stéphanie Grand-Collin, je vous laisse la parole.
Bonsoir. Donc d'abord, je voulais revenir un petit peu sur la définition de l'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire, c'est une perte involontaire d'urine par le méa urétral. On distingue deux grandes catégories d'incontinence urinaire. L'incontinence urinaire à l'effort, qui, comme son nom l'indique, se produit plutôt lors des efforts. Un effort simple comme la toux, l'éternuement, la marche... et l'incontinence urinaire par impériorisité qui vient d'un défaut de la musculature vésicale. L'incontinence par impériorisité se traduit par des envies irrépressibles et incontrôlables d'uriner. Le patient peut aussi souffrir d'incontinence mixte qui associe ces deux formes d'incontinence. Et il y a aussi l'incontinence par regorgement qui est plus rare. Qui est concerné par l'incontinence urinaire? C'est vrai que c'est principalement la femme de plus de 60 ans, puisque 3 millions de femmes de plus de 60 ans sont concernées par cette infection. Et 37% des femmes de plus de 60 ans sont incontinentes urinaires. Seulement 10% des hommes de plus de 60 ans le sont. il va y avoir un impact important et on peut considérer ça comme un handicap parce que la personne va souffrir dans ses relations sociales puisqu'elle va réduire le nombre de ses sorties par crainte de l'odeur, des fuites intempestives. Sur le plan professionnel aussi, elle va être handicapée, elle va être perturbée dans son travail parce qu'elle va se rendre de nombreuses fois aux toilettes pour uriner de façon préventive et se changer. Sur le plan financier aussi, il y a un retentissement à cause du coût des protections. Sur le plan de la vie sexuelle aussi, on n'en parle pas souvent, mais il y a un retentissement. 20% des femmes incontinentes ont aussi une dysfonction sexuelle associée, avec une baisse de libido, entre autres. Sur le plan médical aussi, il peut y avoir des complications, puisque le patient va éviter de boire pour éviter d'avoir à uriner. Et il va avoir des difficultés à en discuter avec un professionnel de santé parce que ce sujet est toujours tabou. Pourtant, rien que d'en parler avec son généraliste peut avoir un impact puisqu'il peut faire pas mal de choses. Il va d'abord interroger le patient, si c'est une patiente, sur ses antécédents obstétricaux, le poids de naissance des enfants, le type d'accouchement, le nombre de grossesses peut avoir un impact. Les antécédents chirurgicaux aussi peuvent être un facteur déterminant dans l'incontinence urinaire. Ce qu'on appelle aussi la iatrogénie, c'est-à-dire il y a certains types de médicaments qui favorisent l'incontinence urinaire. Il y a des maladies aussi comme des affections neurologiques, parasitaires, les infections urinaires, la constipation et beaucoup d'autres affections entraînent cette incontinence urinaire. En fonction de ces éléments, le médecin généraliste va proposer au patient de réaliser un calendrier mictionnel. Le calendrier mictionnel, c'est demander au patient combien est-ce qu'il boit tous les jours, qu'est-ce qu'il boit, sa façon de vivre, aussi quelle quantité il urine, à quelle fréquence il urine. Et en fonction de tous ces éléments, il va avoir plusieurs propositions à faire au patient. Éventuellement, il peut lui proposer des médicaments directement, plus ou moins associé à de la kinésithérapie de rééducation du périnée, ou il va le confier à un confrère spécialiste, éventuellement pour de la chirurgie.
Merci Stéphanie. Je vais enchaîner, c'était dans cet ordre-là. J'arrive pas à être assis. Oui, tu passes. Donc Xavier Frittel, je suis gynécologue, vous verrez, il y a deux spécialités chirurgicales qui vont vous parler d'incontinence, les gynécologues et les urologues. Non, je vais mettre le doigt, moi, je vais mettre le doigt. Donc j'avais commencé par cette photo parce que je trouvais qu'elle illustrait bien le problème de l'incontinence urinaire. Bon, c'est une femme et le fait que c'est un tabou et qu'il y a une certaine honte liée à ce handicap, hein, parce qu'on peut appeler ça un handicap. C'est une photo qui est extraite d'une publicité médicale pour un médicament contre l'incontinence urinaire qui illustre parfois le côté soudain de certaines incontinences et le fait que ça peut survenir en public, qu'on risque que les autres s'en aperçoivent. Et c'est une des du poids du tabou, de la honte qu'il peut y avoir sur l'incontinence et au fait qu'il peut aussi y avoir des réticences à en parler aux professionnels de santé pour trouver une solution. Tu passes la suivante. Stéphanie a dit que c'était touché plus les femmes que les hommes, mais je vous rassure, messieurs, avec l'âge et un peu les problèmes de prostate, les choses se rattrapent un peu à un moment donné. À un certain âge, il y a une certaine équivalence qui peut survenir. Le risque, il est proportionnel à l'âge. Stéphanie a parlé de 3 millions, c'est à peu près, quand on met les hommes, c'est 4 millions d'hommes et femmes, de personnes en France, et ça induit plus de 40 000 chirurgies par an en France. Ça, c'était une petite enquête qu'on avait fait. Jacques, l'incontinence urinaire, c'est un signe, c'est-à-dire qu'il y a en vérité des incontinences urinaires, c'est-à-dire que derrière l'incontinence urinaire, il y a différentes causes, différentes maladies, différentes prises en charge. Et tout le travail d'expertise médicale, c'est à partir d'un symptôme arriver à en connaître, en déterminer le mieux la cause et pour pouvoir en connaître le traitement. Caroline a parlé des accouchements, je vous ai réinsisté sur le vieillissement. Jacques, je pense dire un mot sur la prostate, l'obésité, le diabète sont aussi des facteurs importants. Jacques, la suivante. Les deux grands types d'incontinence, ça ne veut pas dire que tout le monde peut rentrer dans ces deux cases, hein. L'effort, c'est la toux, l'éternuement, c'est l'effort abdominal, ça appuie sur la vessie, la fuite arrive. Et l'urgence, c'est une des incontinences les plus handicapantes parce que c'est soudain, ça peut arriver en public sans que ça soit prévisible. Et surtout, c'est une grande quantité, ça se voit. Il y a le fameux syndrome de la clé sur la porte, on s'est retenu toute la journée. Et c'est au moment où on arrive aux toilettes où on va pouvoir en effet soulager que la fuite peut survenir. Ça ne décrit pas tout, il y a d'autres types d'incontinence urinaire. Et on peut très bien ne pas arriver à être classé dedans. Il y a des causes un peu plus rares, c'est les grands types. Jacques, la suivante. Alors, différents traitements, j'ai voulu présenter, on parle souvent des traitements vraiment avec soignants, c'est-à-dire la rééducation, les médicaments, la chirurgie. Je vais vous dire un mot sur la neuromodulation. Mais il y a aussi des choses qu'on peut faire tout seul, il y a des choses qu'on peut faire en avant, et ça rejoint un projet de recherche qui est en cours sur l'éducation. Hein. On a montré que l'activité physique, perte du poids, pouvait améliorer l'incontinence, qu'il y avait une relation avec la prise de caféine, de théine, c'est la même chose, hein, et qu'on pouvait intervenir sur certains types d'incontinence en faisant attention à ce qu'on boit, en particulier le café et le thé, qu'on pouvait aussi jouer sur la manière dans laquelle on a de gérer ses envies d'uriner. Une partie du traitement qui est par exemple mise en œuvre en rééducation, c'est de la thérapie comportementale, apprendre à gérer sa miction, à différer sa miction, à reprendre confiance en soi sur le fait qu'on peut différer sa miction. En rééducation périnéale, vous allez travailler vos contractions avec un soignant, vous allez réapprendre la contraction avec les soignants, mais ce travail, c'est aussi du travail personnel, donc c'est des choses qu'on fait soi-même. Et parfois, il y a des petits dispositifs qu'on peut utiliser comme tampon, comme PCR pour traiter l'incontinence. Jacques, la suivante. Les contractions du plancher pelvien, c'est le travail qu'on fait avec les kinés, qu'on fait chez soi. On va travailler sur de la force, la coordination, c'est-à-dire qu'une partie de ce qu'il fait, c'est pour voir contracter au moment de contour. On travaille sur l'endurance. Je pense que Mme Pavy-Lebrun reviendra dessus. C'est beaucoup pour l'incontinence urinaire d'effort, mais ça marche, ça peut marcher pour l'incontinence d'urgence, parce que le plancher pelvien, les muscles qu'on contracte, permettent de différer l'envie d'uriner. Alors, la bandelette, on ne peut pas ne pas parler de la bandelette parce que c'est l'intervention chirurgicale la plus connue. C'est un gynécologue scandinave qui l'a inventé. Maintenant, ça doit faire 18 ans. On a commencé à l'utiliser en France en 98. Hein. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que c'est une chirurgie qui peut être souvent faite en ambulatoire chez la femme, c'est-à-dire qu'elle rentre le matin, sort le soir, et même elle peut être réalisée sous anesthésie locale. La suivante, Jacques. La neuromodulation, on en parle très peu et c'est parfois... C'est un des traitements, une alternative qui est intéressante au traitement médicamenteux pour les fuites par urgence, parce qu'en particulier, ça n'a pas d'effet secondaire et ça peut éviter, en particulier chez le sujet âgé qui ne va pas tolérer certains médicaments. C'est une alternative qui est très intéressante où on va apprendre. C'est le patient lui-même qui met en œuvre avec un petit boîtier électrique, il s'envoie de l'électricité dans le pied. On reviendra si vous voulez sur les détails. La suivante. Alors, je vais vous poser quelques questions, voir si on a été clair jusqu'ici. Alors, est-ce que l'incontinence urinaire est fréquente? Bon, je pense que vous serez d'accord pour dire que c'est très fréquent. Jacques, est-ce que tu peux cliquer au fur et à mesure? Oui, d'accord. Est-ce que ça fait partie du vieillissement normal? Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, parce qu'on peut vieillir sans incontinence urinaire. Bien sûr que le vieillissement expose à l'incontinence, mais même quand on est âgé, une bonne partie des incontinences peut être prise en charge. Ce n'est pas normal, ça ne fait pas partie du vieillissement normal. Il y a des thérapeutiques qu'on peut proposer. Est-ce que ça a un impact sur la qualité de vie? Je pense que la réponse, elle est facile, en effet. Alors j'ai posé la question parce que j'ai plus de données chez les femmes, mais c'est la même chose chez les hommes en vérité. Est-ce que quand on est atteint, on consulte? Eh bien non, on ne consulte pas. Tout confondu, il n'y a que 15% des sujets atteints qui vont consulter, demander des soins à un médecin. Et même quand on regarde les incontinences les plus sévères, c'est que la moitié qui vont consulter. Et une des hypothèses pour dire qu'on ne consulte pas, c'est le fait qu'on pense que c'est normal ou que les traitements ne marchent pas. Alors, est-ce que les traitements ne marchent pas? Heureusement, ils marchent souvent. Donc, c'est faux que les traitements ne sont pas efficaces. La dernière, je voulais terminer là-dessus. parce qu'on a un projet de recherche actuellement sur le CHU qui n'est pas de la recherche médicale, ce n'est pas un traitement individuel, ce n'est pas de la chirurgie. C'est avant de la consultation, ça concerne des femmes de plus de 65 ans qui ne consultent pas malgré leurs troubles et qui pourraient bénéficier d'éducation à la santé, d'un atelier d'éducation à la santé, qu'on puisse leur apprendre à s'occuper d'elles-mêmes et de voir l'impact que ça peut avoir sur l'incontinence urinaire. C'est Lucie Merlet qui s'en occupe, là, qui est en bas, tout au fond, là. Lucie, montrez-vous. Voilà. On est prêt à organiser des ateliers près de chez vous, si vous êtes volontaire. Lucie, elle peut être jointe à ce téléphone-là ou par email, ou vous pouvez lui demander des dépliants si vous souhaitez en sortant. Jacques, je te passe la parole. Merci à vous.
Merci à toi. Bien, bonsoir à tous. Eh bien, ça me fait grand plaisir de revenir 3 ans plus tard, parce qu'il y a 3 ans, j'ai parlé de cancer de la prostate. Peut-être que certains d'entre vous étaient là. Et là, je présente ce diaporama de la part de tout le service d'urologie, en particulier le docteur Charles, qui est chez nous responsable urologie dans le pôle pelvipérinéologie, donc il s'en occupe particulièrement et qui est là. Et Xavier est venu avec une accompagnatrice. Moi, je suis venu avec 2 accompagnatrices. Oui.
Alors, je m'excuse hein, parce que je n'en suis en effet pas tout seul, mais on m'en occupait en gynécologie. Et je m'aperçois à cause de Jacques que j'ai oublié de dire qu'il y avait Caroline, gynécologue aussi, qui est là, qui s'en occupe dans le service.
Mais j'avais remarqué, j'allais en parler. Heureusement que tu l'as dit juste avant moi. Et donc, Madame Posson et Madame Dérès sont 2 infirmières à la consultation d'urologie. Et je peux vous dire, pour les gens qui consultent, ils ont de la chance parce qu'elles sont très patientes, très gentilles, pas comme les docteurs. Et donc, elles reprennent, après notre consultation, les patients et les patientes pour leur expliquer tranquillement, leur donner des documents, leur faire des tests qui ne sont pas toujours très sympathiques, mais elles font passer la pilule de façon très agréable. Voilà, alors, on a déjà pas mal parlé d'incontinence. Qu'est-ce que je veux vous dire de plus intrinsèquement? Rien. Tout a déjà été dit. C'est rassurant en quelque sorte parce qu'on parle tous de la même chose et on a la même vision du problème. Bon, c'est vrai qu'en urologie, on s'occupe également de l'incontinence chez l'homme. Donc il y aura peut-être un petit peu plus, je vais peut-être plus insister chez l'homme, mais bon, on fait également l'incontinence chez la femme. Mais nous travaillons en parfaite entente, non pas en concurrence déloyale. Et je vais essayer de faire un rappel rapide parce que vous avez eu beaucoup d'informations qui sont venues tout d'un coup, là, les unes après les autres. Et je pense qu'avoir une perspective différente pour dire les mêmes choses, ce n'est pas inutile. Surtout qu'il y aura un examen à la sortie et ceux qui vont échouer, ben, ils vont revenir à la séance de 20h30. Alors non, on veut tous aller manger à la maison, donc vous avez tous intérêt à réussir. Alors, la définition qui a été donnée est importante. Pourquoi ? Parce que parfois, on ne parle pas de la même chose avec les patients et les patientes. C'est-à-dire quand ça m'est déjà arrivé que 2 fois de dire « mais vous avez une incontinence ?» Non, j'ai des fuites d'urine, ou l'inverse. C'est la même chose, hein. Donc il ne faut pas que les mots nous mettent sur la mauvaise piste pour la consultation, pour le diagnostic, pour le motif de ce qui vous gêne. Les chiffres, on peut en leur faire dire ce qu'on veut, hein. Ça, c'est d'après la police ou d'après les manifestants, la prévalence de l'incontinence urinaire est très variable. Vous imaginez, pour savoir exactement, on vous appelle à la maison en vous disant « c'est allô, c'est un organisme d'enquête, est-ce que vous fuyez ?» C'est quand même pas évident de répondre à des enquêtes de ce type-là. En tout cas, ce qui est sûr, quels que soient les chiffres, c'est très fréquent. Et ce n'est pas parce que vous souffrez d'une incontinence urinaire et que dans votre milieu social, vos voisins, vos invitations, personne n'en parle, que vous êtes la seule ou le seul à en souffrir. Ça, vous pouvez en être sûr. Ça, c'est sûr, c'est quelque chose de fréquent. Les causes sont multiples, vous l'avez compris. Donc, c'est vrai que chez la femme, c'est un peu différent par rapport à l'homme, même s'il y a évidemment des causes communes, comme les causes neurologiques, par exemple les incontinences chez les patients qui ont une paraplégie après un accident de voiture, qui n'est pas du tout comparable au traumatisme après l'accouchement chez la femme. Peut également être due à plusieurs autres raisons qui sont anatomiques, qui sont congénitales, qui sont dues à des infections, Donc, en tout cas, vous avez compris que les causes sont multiples, même s'il y a des causes qui sont de loin prévalentes, beaucoup plus fréquentes que les autres. C'est la même chose chez l'homme, où même si la cause la plus fréquente est dite iatrogène, c'est-à-dire qu'elle est en rapport avec un traitement, le plus souvent le traitement d'un cancer d'un organe pelvien, le plus souvent la prostate, mais ça peut être la vessie, ça peut être même un organe qui est à proximité, comme la fin du tube digestif, le rectosigmoïde. Eh bien, en dehors de cette cause qui est probablement la plus fréquente, il y en a plein d'autres. Il y a l'accident avec des cicatrices qui ne sont pas satisfaisantes sur le plan fonctionnel. Il y a des anomalies de naissance, il y a des anomalies acquises du système urinaire, les infections et d'autres. Je ne rentrerai pas dans les détails. Juste pour vous dire que de la même façon, il y a plusieurs causes d'incontinence urinaire chez l'homme. Donc, la définition est unique. Mais pour une même définition, vous avez de multiples causes. Ce qui veut dire que nous, on a classé les incontinences selon également différentes têtes de chapitre, parce qu'il fallait essayer de résumer ces différentes causes. Alors, le plus souvent, on retrouve l'incontinence à l'effort. Ça ne veut pas dire que c'est en déménageant, forcément. L'effort, ça peut être un effort comme tout simplement tousser, éternuer. Ça veut dire marcher vite. Ça peut être l'incontinence dite par impériosité ou par urgenturie ou par hyperactivité vésicale ou instabilité vésicale. Tous ces termes définissent une vessie qui est très facilement excitable et que le cerveau n'arrive pas à bien contrôler. Elle va se contracter trop vite, trop fort. Et à un moment donné où ça va surprendre la personne qui va perdre des urines. Donc le professeur Frittel parlait du syndrome du clé dans la porte qui est quelque chose qui montre bien à quel point le cerveau aussi commande dans cette affaire, c'est-à-dire qu'envie très fréquente, très pressante d'uriner, on arrive, on s'est retenu pendant une heure de route, le temps de mettre la clé dans la porte, c'est parti parce que l'envie devient insupportable. C'est également les personnes qui ont déjà repéré toutes les toilettes de Auchan, Casino, Leclerc, peuvent vous faire même un petit manuel si vous voulez. C'est les personnes qui ne peuvent pas entendre l'eau couler ou mettre les mains sous l'eau sans avoir envie d'uriner. Donc vous voyez que c'est vraiment la vessie qui se contracte trop vite de façon non adaptée. Et alors, comme si ce n'était pas déjà assez compliqué, il y a évidemment les incontinences mixtes qui vont associer une incontinence à l'effort avec une incontinence avec ces vessies qui sont hyper excitables. Et puis, il y a d'autres causes. Une des plus fréquentes chez l'homme, ça va être l'incontinence par regorgement, c'est-à-dire la vessie se remplit complètement et puis elle commence à se vider parce que c'est le trop-plein qui part. Donc, il y en a d'ailleurs qui n'appellent pas ça une incontinence, mais cela dit, ça rentre dans la définition de l'incontinence, perte involontaire d'urine. Donc, des types multiples, puisqu'il y a des causes multiples. Et donc, évidemment, les traitements vont être multiples. Donc, on en a déjà parlé, je vais passer rapidement. La rééducation pelvipérinéale, nous avons quelqu'un de très compétent à cette table ronde qui va en parler, donc je ne reviendrai pas dessus. Simplement pour vous dire que les médecins aiment bien prescrire ce traitement en première intention parce que c'est un traitement qui est peu invasif, qui n'a pas d'effet secondaire ou négligeable, alors que tous les autres traitements peuvent en avoir, que ce soit des médicaments ou des traitements chirurgicaux. Les patients et les patientes sont parfois un petit peu déçus. Elles disent oh, « je voudrais une opération, puis on n'en parle plus, c'est réglé, le lendemain, c'est terminé ». La rééducation, ça veut dire qu'il faut y aller, il faut être persévérant, il faut faire des efforts, etc. Mais ça peut payer. Non seulement ça va améliorer la situation très probablement, mais en plus, même en cas de traitement médical ou chirurgical derrière, ça ne peut qu'être associé de façon synergique avec cet autre médicament qui va arriver derrière. Alors, les fameuses vessies hyperactives, ou donc on se disait les urgenturies ou les instabilités, c'est un peu le royaume en première intention du traitement par des médicaments. Alors, des médicaments, il y en a plusieurs, mais ce que je disais sur les effets indésirables tout à l'heure, c'est qu'ils en ont. Et c'est un peu le signe de leur efficacité. Ils sont efficaces, mais par exemple, ils sont peut-être pas complètement contre-indiqués, mais très déconseillés en cas de constipation. Alors évidemment, l'incontinence survient très souvent associée à une constipation. Donc vous voyez que ce n'est pas très facile non plus à prescrire. Et on attend des nouveaux médicaments. Ils sont prêts, ils sont bientôt peut-être dans la haute du Père Noël ou dans les années qui viennent, mais pour l'instant, on a plusieurs médicaments qui sont en fait la même molécule et qui donnent à peu près les mêmes effets secondaires, un peu mieux, un peu pire, mais en gros la même chose. La neuromodulation, c'est-à-dire qu'on va aller jouer sur les nerfs qui vont innerver la vessie, qui vont donner le signal de contraction. Donc le professeur Frittel en a parlé, il y a une façon de neuromoduler en mettant des pastilles au niveau de la jambe ou du pied, la jambe. Et ça, c'est le plus simple. Par contre, ce n'est pas très efficace. Si on veut être plus efficace, il faut aller carrément implanter des électrodes au niveau des nerfs qui vont vers la vessie. Et là, c'est déjà un peu plus compliqué. Donc, c'est quelque chose qu'on va réserver en troisième, quatrième ligne pour les personnes qui ont des vessies hyperactives. Donc, nous, on a commencé à le faire au CHU de Poitiers dans le cadre du pôle de pelvipérinéologie. La toxine botulique, ça va être une injection, le fameux Botox, ça ne fait pas qu'améliorer les rides, ça va paralyser la vessie. Donc, c'est très efficace. Ça se fait en ambulatoire, c'est-à-dire les personnes rentrent le matin, sortent le soir. Le problème, c'est que dans 20% des cas, derrière, on ne peut plus uriner. La vessie est complètement paralysée. Donc, c'est embêtant. C'est embêtant, ça dépend. Il y a, par exemple, des indications chez des gens qui sont paraplégiques à la suite d'un accident de voiture, par exemple, qui font déjà des autosondages pour vider leur vessie, mais qui ont des fuites entre les autosondages. Donc, eux, ce n'est pas un problème. De toute façon, ils vont s'autosonder pour vider la vessie. Et donc, le fait de leur faire un Botox, ça ne peut être qu'une amélioration évidente. Dans les autres cas, c'est plus discuté. Alors, la chirurgie. Évidemment, moi, j'avais chacun sa photo. Et là, c'est la photo de la mère de famille qui a déjà eu 3-4 accouchements et qui veut jouer avec ses enfants et qui essaie de faire du saut à la corde. Et puis, bon, là, le problème, c'est que ça... Allez, petite suite. Donc, là, c'est effectivement le royaume pour l'incontinence urinaire d'effort pur de la fameuse bandelette. Alors, tout le monde connaît la bandelette. Le problème, c'est que, comme ils ne sont pas venus à la présentation de Mendes France aujourd'hui, tout le monde pense que toutes les incontinences se traitent par la bandelette. Donc, vous avez commencé à comprendre qu'il y a plusieurs causes d'incontinence, donc il y a plusieurs traitements différents, et la bandelette ne correspond que à l'incontinence urinaire d'effort dans des conditions bien précises. Donc, ça consiste à mettre une bandelette d'un tissu synthétique chirurgical qui va cravater l'urètre. C'est une chirurgie qu'on appelle mini-invasive, c'est-à-dire qu'il y a 3 points quasiment comme incision. C'est fait souvent en ambulatoire, c'est-à-dire qu'on rentre le matin, on sort le soir. Mais comme toute intervention, il peut y avoir des effets indésirables, des complications. Ça, c'est une enquête qu'on avait fait dans le service pour répondre à la question « Mais quand est-ce que je peux reprendre mes activités ?» Bon, reprendre ses activités, ça correspond à plein de choses différentes. Donc, vous voyez qu'à 3 semaines, quasiment toutes les femmes pouvaient remettre tous leurs vêtements, qu'ils soient serrés, larges, faire leurs travaux ménagers habituels, faire les courses, recevoir ou se faire inviter. Par contre, moins de 50%, alors je ne sais pas s'il y a une part psychologique ou culturelle dans l'affaire, parce que ce n'est pas les mêmes pourcentages chez les Scandinaves, mais refaire du sport, reprendre son travail ou avoir des rapports sexuels, ça, ce n'était pas encore acquis à 3 semaines. Donc, ça donne un peu une idée de quelle est l'immobilisation qu'on peut avoir après ce type d'intervention. Alors, cette bandelette, elle existe chez l'homme, mais elle fait beaucoup moins de consensus, beaucoup moins répandue. C'est pas aussi efficace. Et il y a des cas où ça donne de bons résultats, des cas où ça donne des catastrophes. Donc, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est commun. On le fait dans des indications extrêmement rares, le plus souvent après ablation complète de la prostate pour cancer, lorsque les fuites sont plutôt modérées. Lorsque les fuites sont importantes, on met à ce moment un sphincter urinaire artificiel. Donc, vous le voyez ici, vous voyez tout ce matériel que vous voyez là, il va falloir tout mettre dans l'organisme. Il n'y a plus rien qui apparaisse à l'extérieur. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de corps étrangers, il peut y avoir des rejets, il peut y avoir des infections. Mais quand ça fonctionne, eh bien, ça fonctionne bien et ça améliore la situation de façon significative, en sachant que c'est quand même du mécanisme. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une pièce qui tombe en panne. Il peut y avoir un ballon qui se perce, une déconnectique qui fuit, etc. Donc, il faut réopérer à chaque fois pour changer une pièce. Et voilà comment ça se présente, que ce soit chez l'homme ou chez la femme. Vous voyez que vous avez, autour du canal de l'urètre, une sorte de manchette qui va appuyer mécaniquement sur le canal de l'urètre. Et cette manchette est commandée par la femme en utilisant une pompe qui est dans la grande lèvre et chez l'homme près de la bourse. Ça, on va commander l'ouverture et la fermeture de cette manchette. Donc, sauf quand on veut uriner, cette manchette, elle est refermée sur le canal de l'urètre et elle fait que ça va mécaniquement bloquer la sortie des urines. Donc voilà, on va conclure. L'incontinence urinaire, une seule définition, c'est la perte involontaire d'urine. Mais vous avez bien compris qu'il y a plusieurs causes d'incontinence urinaire et pour chaque cause, il y a un traitement qui est adapté. Il y a des causes qui sont simples, par exemple l'incontinence urinaire à l'effort isolée chez la femme de 40 ans qui a eu 2-3 accouchements et qui perd des urines uniquement quand elle saute, quand elle tousse, quand elle va danser ou quand elle veut faire du jogging. Et vous avez l'incontinence mixte qui réunit plusieurs causes chez une personne éventuellement plus âgée qui a déjà eu un traumatisme, une chirurgie, etc., des rayons. Et là, ça va évidemment être plus complexe. Alors, je crois que j'en ai fini et je pense que vous avez des questions parce qu'on a beau vouloir être clair. Ah, pardon. Nous avons l'essentiel. La rééducation, je vous ai bien dit que c'était la première indication. Et par ailleurs, si vous avez des questions qui concernent plus particulièrement la consultation infirmière, les infirmières d'urologie qui sont venues et éventuellement de gynéco, si elles sont là, qui peuvent vous répondre. Et plus particulièrement, par exemple, la neuromodulation, des questions précises de pelvipérinologie, j'ai demandé au docteur Charles de venir également pour répondre aux questions. Et maintenant, je suis vraiment désolé de vous avoir oublié. Je vais me faire pardonner, je vais piloter le PowerPoint. C'est lequel ? Fabi Lebrun.
Bonsoir. Donc, que peut bien faire un kinésithérapeute sur les problèmes d'incontinence urinaire ? Diapo, s'il vous plaît. Donc, l'intérêt de la rééducation, c'est que le kiné, il est là parce qu'il a le temps d'informer. Petit rappel anatomique pour vous expliquer comment c'est fait, comment ça marche, pourquoi il y a des problèmes. Et il rassure aussi sur les différentes techniques de traitement qui sont proposées. Il peut servir d'intermédiaire avec le médecin pour vous informer un peu sur ce qu'on vous a proposé ou pas. Et il a un rôle essentiel dans la prévention et dans l'éducation dont les médecins qu'ils ont évoqué tout à l'heure. Nous, on a le temps de le faire et on est là pour ça. Donc les conseils d'hygiène de vie, l'histoire du calendrier mixtionnel, qu'est-ce que tu bois, combien de fois tu vas aux toilettes, quand est-ce que tu as des fuites, on a le temps d'y répondre. Qu'est-ce que tu fais comme sport, qu'est-ce que tu fais comme travail, quelles contraintes tu as dans la vie ? On est là pour poser aussi ces questions-là et faire le bilan. L'intérêt de la rééducation, c'est aussi pour une pathologie qui touche quand même l'intimité. On a parlé de tabou tout à l'heure, et c'est encore évidemment beaucoup un tabou, de pouvoir proposer entre autres aussi des techniques de travail. J'ai plusieurs petits outils dans ma boîte à outils et qui ne seront pas forcément invasives. Donc on ne va pas tout de suite vous sauter dessus avec une sonde pour vous mettre ça n'importe où. On peut avoir éventuellement d'autres outils dans ma boîte à outils qui peuvent aussi rassurer. Toutes ces techniques rééducatives doivent être pratiquées évidemment avec votre accord, avec un consentement éclairé, si possible, si j'ai été assez claire dans mes informations. Elles sont bien entendu non douloureuses et, comme avait insisté monsieur le docteur Frittel tout à l'heure, elles nécessitent effectivement une bonne motivation du patient. Diapo, s'il vous plaît. Donc, kiné, ça fait un bilan. Alors, ça va peut-être faire redite, mais moi, je n'ai pas toujours des patients qui arrivent avec un bilan urodynamique, avec une ordonnance très, très complète. Hein. Donc, si c'est le cas, tant mieux. Et je remercie les médecins qui m'ont envoyé les patients. Mais quelquefois, j'ai juste fuite urinaire, point. Et donc, je suis obligée de refaire un petit peu des interrogatoires. Donc, voilà, on reprend les questions qui ont été évoquées tout à l'heure par le docteur Irani, les antécédents gynécaux chez les femmes, les problèmes d'accouchement, comment j'ai accouché, une césarienne, une voie basse, une déchirure, est-ce qu'il y a une hystérectomie, est-ce qu'il y a une prostatectomie. Grosse question sur le sport. Hein, on avait la mode de la gym tonique autrefois, on a la Zumba maintenant, on a le jogging et la course à pied, on a les abdominaux à tout craint parce qu'il faut un ventre plat. Donc ça nous cause quand même pas mal de consultations, et chez les femmes jeunes. Le loisir et les professions, hein, est-ce que je porte des charges, est-ce que je suis souvent debout, quelles sont mes contraintes professionnelles, que j'ai des enfants en bas âge à porter, est-ce que j'ai un conjoint handicapé à porter. La constipation, grand facteur favorisant aussi associé à l'incontinence urinaire, vous l'avez déjà évoqué tout à l'heure, docteur. Est-ce que je suis fumeur, je tousse, je suis bronchite chronique, je suis asthmatique, tout ça, ça va poser des problèmes d'hyperpression qu'a évoqué le docteur Frittel tout à l'heure. Donc facteur de risque sur les fuites urinaires, masculines et féminines. La surcharge pondérale est un facteur aggravant. La prise de médicaments, qui peut engendrer aussi des problèmes d'insuffisance au niveau du petit système de verrouillage, hein, qui est notre sphincter. Le calendrier mixtionnel, quand est-ce que je bois, combien, pourquoi, du thé, du café, du coca, 3 litres par jour ou pas du tout. Dans quelles circonstances ça apparaît ? J'ai des problèmes, c'est quand ? Quand je tousse, quand j'éternue, quand je saute, quand je cours ? Est-ce que c'est le contact du froid, de l'eau, du café ? Tout ça a déjà été évoqué tout à l'heure. Ou le rire, ou les pleurs, ou la colère. Diapo, s'il vous plaît. Alors, un problème de vessie, ce n'est pas forcément uniquement un problème de périnée ou plancher pelvien. C'est-à-dire qu'il y a un petit muscle en dessous qui me sert de coussin amortisseur quand je fais des efforts. C'est mon coussin airbag. C'est ce qu'on appelle le plancher pelvien ou périnée. Mais normalement, tout ça, au niveau des organes, c'est quand même maintenu aussi par ma sangle abdominale. Donc en fait, oui, on va peut-être vous regarder déjà un petit peu au niveau du ventre, évaluer la surcharge pondérale avec votre tour de taille, évaluer la tonicité des abdominaux et voir comment effectivement les hyperpressions évoquées tout à l'heure influent ou pas sur la mobilité de ma vessie en dessous. Quelle est la tonicité de mon ventre? Est-ce que ça a été déformé par des accouchements? Est-ce qu'il y a des cicatrices, des fibroses, etc. Diapo, s'il vous plaît. Ensuite, on va peut-être passer à quelque chose d'un peu plus spécifique, avec un bilan vaginal éventuellement pour les femmes. Donc, un examen pour voir un petit peu, voilà, est-ce qu'il y a des cicatrices, est-ce qu'il y a eu des épisios, est-ce qu'il y a eu, voilà, est-ce que j'ai déjà des signes de relâchement, est-ce que c'est associé ou pas à ce qu'on appelle vulgairement les descentes d'organes. Et ensuite, le kiné peut faire une touche vaginale pour évaluer la tonicité et la force de votre plancher pelvien. On va vous demander de contracter ou de relâcher. Est-ce que ça marche? Est-ce que tu as compris ce que je te demande ou pas? Tester la tonicité aussi au niveau vaginal, qui joue un rôle aussi dans mon petit coussin amortisseur. Est-ce qu'il y a donc ce qu'on appelle vulgairement l'eptose, les descentes d'organes? Tous les muscles aussi qui sont à l'intérieur du bassin qui peuvent avoir un rôle aussi sur la bonne ou moins bonne qualité de ma contraction, c'est-à-dire tous les muscles, les rotateurs de hanche, il y a beaucoup de muscles aussi à l'intérieur du bassin qui peuvent être cause de relâchement périnéal ou de douleur. Diapo, s'il vous plaît. Donc, un des outils de ma boîte à outils peut être la rééducation manuelle. Donc, effectivement, par l'intermédiaire du toucher vaginal, je peux simplement éduquer pour essayer de faire comprendre le muscle que je dois travailler, pour vérifier s'il travaille bien ou pas. Donc un rôle éducatif important. Peut-être que je fais à l'envers, peut-être que je pousse au lieu de me retenir, et tout ça, ça peut s'apprendre avec le contact du thérapeute. Des problèmes de relâchement et d'étirement aussi de ces muscles au niveau périnéo qui peuvent peut-être être relâchés, mais qui peuvent peut-être être au contraire trop contractés tout le temps. Ou des muscles à côté, les problèmes de hanches et les problèmes de bassin qui peuvent intervenir dessus. Il peut permettre aussi, avec la résistance manuelle du thérapeute, de faire un petit travail contre résistance pour tester la bonne moyenne ou insuffisance contraction périnéale. D'autres techniques associées, souvent utilisées au niveau des sages-femmes, on utilise des petites images, on vous explique un petit peu par des schémas ou par un bassin. Et donc ça permet un travail non invasif et sans toucher vaginal éventuellement pour certaines personnes qui le souhaitent, qui comprennent mieux ce genre d'image. Diapo, s'il vous plaît. Deuxième outil, l'électrothérapie, donc un petit outil un petit peu barbare qu'on appelle une sonde, qui peut être de différentes tailles, de différentes formes, et qui est idéalement associée, qui est idéalement prescrite en fonction de votre anatomie. Les techniques d'électrothérapie, très à la mode il y a une trentaine d'années, et encore assez largement utilisées de nos jours, sous le principe du biofeedback, un mot un petit peu barbare qui veut juste dire que la sonde vous sert de miroir. Donc, de la même façon que je me contrôle quand je fais un exercice dans le miroir ou la danseuse qui se regarde dans le miroir, et bien là, avec la sonde, comme c'est un muscle que je ne vois pas, je peux voir sur un écran, un petit écran d'ordinateur, si je contracte ou pas. Les électrostimulations qui peuvent envoyer un certain type d'influx électrique qui sont censés déclencher une contraction au niveau périnéal. Ceci dit, avec une trentaine d'années d'écart, elles ont relativement peu ou pas fait preuve de leur efficacité, en tout cas en ce qui concerne le renforcement. On ne fait pas de la musculation périnéale. Par contre, elles sont intéressantes pour certains patients qui préfèrent travailler avec ça plutôt que de travailler avec le thérapeute. Ils sont tranquilles. Et puis, il y a un aspect ludique. Alors, avec la mode des jeux vidéo et des écrans ordinateurs, dès qu'on met quelque chose d'un peu électronique, ça plaît pour certains sujets. Par contre, elles ont un rôle reconnu sur la relaxation. Donc, les périnées un petit peu trop contractées dont j'ai parlé tout à l'heure, ça peut être intéressant de les apprendre à se relâcher. Ou sur certains types de douleurs pour le traitement de cicatrices, par exemple. Diapo, s'il vous plaît. Alors, le petit traitement palliatif, Dr Frittel vous a évoqué tout à l'heure des petits dispositifs intravaginaux. Alors, ça ne va pas être le tampon que je mets pour les règles, bien sûr. Ça va être des petits cubes, des petits anneaux. Le bon vieil anneau de nos grands-mères a pris un petit coup de gêne. Et il revient un petit peu d'actualité pour certains types de patients. Ils existent depuis la nuit des temps, leur forme a un petit peu évolué, leur forme s'adapte à la pathologie que présente la personne. Là, on est évidemment uniquement sur un cas féminin, bien sûr, et se met au niveau vaginal. Donc, ils peuvent être une alternative, éviter ou reculer l'intervention, un problème de récidive après une intervention, quelqu'un qui n'est pas prêt tout de suite pour se faire opérer et qui veut attendre un peu, un échec à la rééducation parce que je ne m'investis pas dans mes exercices ou que ça ne marche pas. Et puis, ça peut être une composante intéressante pour la jeune femme sportive, un peu trop jeune pour se faire opérer ou qui ne souhaite pas se faire opérer, mais qui veut faire son sport. Elle ne veut pas arrêter son jogging, elle veut aller à la Zumba, elle veut courir avec ses enfants. Donc, ça peut être une alternative intéressante. Elle peut le mettre et l'enlever à la demande. Enfin, c'est elle qui le gère, qui veut le mettre uniquement pour le sport et les efforts. Diapo, s'il vous plaît. les petites boules de geisha. Alors, on n'est pas des vieux pervers, mais on peut utiliser aussi ce genre de petites choses pour travailler sur la tonification vaginale, puisqu'on a parlé beaucoup de muscles au niveau périnéal, mais vous avez aussi la tonicité au niveau vaginal qui peut être intéressante. Si ces choses-là, alors c'est pareil, avec un look un petit peu revisité aussi, comme l'épaisseur, marche depuis la nuit des temps, c'est qu'il y a des bonnes raisons, et que ça stimule les récepteurs vibratoires au niveau vaginal, et que ça permet soit de faire des exercices de proprioception et de contraction au niveau périnéal, et un renforcement de la tonicité aussi au niveau vaginal. Diapo, s'il vous plaît. Dernier outil dans ma boîte à outils. On a parlé beaucoup de plancher pelvien et de rééducation périnéale. Un élément indispensable pour moi et qui a fait la preuve depuis une vingtaine d'années de son efficacité, reconnue par de nombreuses études scientifiques, c'est le travail au niveau abdominal. Donc un renforcement de la sangle abdominale, strictement hypopressive bien sûr, c'est-à-dire diminuer les pressions abdominales au lieu de les augmenter, comme le font beaucoup de sports, de certaines pratiques sportives. Et ces techniques gymniques abdominales ont été reconnues et validées comme renforçant le tonus et la force musculaire au niveau périnéal ainsi qu'au niveau abdominal. Donc elles devraient être privilégiées dans les pratiques sportives par rapport aux exercices abdominaux classiques qui ont largement démontré leur effet négatif délétère sur le plancher pelvien et sur les organes génitaux en général. Et elles devraient représenter un outil indispensable associé à la rééducation périnéale dite classique, strictement périnéale, dans le traitement des proabsus et de l'incontinence urinaire. Diapo, s'il vous plaît. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup à vous quatre pour vos interventions qui étaient très claires. Alors, avant de vous laisser poser des questions, on a retrouvé ça. Est-ce que ça appartient à quelqu'un d'entre vous qui l'aurait oublié par hasard? C'est une sacoche noire. Il y a 10 000 euros dedans. Non? Ça à personne? Ok, je garde. Alors. C'est à personne d'entre vous? C'était oublié sur un toit de voiture. C'est pour ça que je me permets de... Voilà. Ok. Alors... Vous allez pouvoir poser vos questions. Évidemment, vous m'appelez en levant la main, comme à l'école. Je viens vers vous, vous me donnez vos questions. Si vous ne voulez pas la poser dans le micro, vous pouvez l'écrire sur le petit papier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je vous demanderai de bien parler dans le micro, parce que tout ce que vous avez entendu jusqu'à maintenant et vos questions, tout est enregistré et sera disponible sur le site du CHU et l'Espace Mendès France. Je vous donnerai tout ça tout à l'heure. On y va. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais récupérer les petits papiers. Quelqu'un a une question? Alors j'en ai déjà une qui arrive. Quelle différence y a-t-il entre la prise en charge de l'incontinence urinaire au sein du service d'urologie et celle du service de gynécologie?
Il y a un endroit où c'est bien pris en charge. Non, je vais donner un élément de réponse et je vais laisser au professeur Frittel l'autre élément de réponse. C'est que les deux services sont formés pour prendre en charge ce type d'incontinence. Évidemment, les hommes vont tous en urologie. Et pour les femmes, eh bien, si vous arrivez en urologie pour une raison X ou Y, vous accompagnez votre mari, vous avez par ailleurs un problème de calcul ou votre correspondant médecin traitant, plutôt votre médecin traitant et notre correspondant, il va plutôt venir chez nous. Sinon, il ira en gynécologie. Mais peu ou prou, comme vous avez vu avec nos présentations, vous n'aurez pas un traitement ou une prise en charge radicalement différent. Professeur Frittel.
Je ne suis pas capable de répondre à votre question. Allez à l'endroit où vous vous sentirez bien accueilli. J'espère qu'on accueille aussi bien les patientes en urologie qu'on les accueille en gynécologie, mais j'en doute pas en vérité. C'est très clair dans nos présentations qu'on travaille sur la même chose avec des techniques qui sont proches. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a aussi une réunion médicale commune. On a parlé de cas simples, de cas complexes, et les cas complexes, on les révise ensemble et de manière concertée.
Qui a des questions? Je suis derrière vous, hein, c'est pour ça, ne me cherchez pas. Après une prostatectomie, comment rééduquer le sphincter?
Ça, c'est une question plutôt pour moi. Peut-être la rééducation d'abord.
Alors, bien dans le micro, s'il vous plaît.
Je vais vite donner la parole à Mme Pavy-Lebrun. Juste, je vais répondre de façon assez globale et ensuite, je pense qu'elle parlera plus de la rééducation. Le problème de la prostatectomie totale pour le cancer de prostate, c'est qu'on enlève toute la prostate. Ce n'est pas comme la chirurgie de la gêne urinaire où on n'enlève que l'adénome. Pour avoir une image, la prostate, c'est comme un œuf dans un coquetier. quand on est opéré uniquement pour un problème de gêne urinaire, il faut enlever l'œuf, on laisse le coquetier, donc on n'a pas de problème normalement d'incontinence, on n'a pas de problème sexuel. Alors que quand on enlève tout, l'œuf et le coquetier, eh bien on atteint des petites structures annexes et il faut refaire une suture, un raccord entre la vessie et le canal de l'urètre. Donc le sphincter va être déplacé. Il va se demander ce qui lui arrive au début. Et puis petit à petit, ça va mettre en fonction de l'âge des personnes, du fait qu'il y ait par ailleurs d'autres pathologies comme un diabète, des choses comme ça, ou s'il y a besoin de faire des rayons en plus. Il va y avoir un certain temps qui va s'écouler avant d'avoir une continence satisfaisante. Donc il y a presque toujours, au moins pour les premiers jours, un défaut de continence, un défaut de la maîtrise de la continence. Alors il y a des écoles qui font un début de rééducation avant. Le bras peut-être nous donnera un aperçu. Alors, on ne le fait pas forcément parce que les études montrent que ça apporte une amélioration, mais qu'à 6 mois ou 1 an, les gens dans les deux groupes, ceux qui ont fait avant ou après, se retrouvent dans la même situation. Alors, pour l'après-prostatectomie, eh bien, je pense que c'est une bonne chose parce que ce n'est pas invasif. Il ne faut peut-être pas le faire immédiatement après l'opération alors que on est encore en période de cicatrisation des plaies cutanées. Ça ne peut qu'apporter un plus et accélérer en tout cas la récupération de la continence. Hein, Pavie Lebrun, votre avis?
Alors, d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, à 1 an, on ne retrouve pas de différence entre la personne qui a fait de la rééducation avant ou après, avant et après, que après ou pas du tout. Donc, en fait, il n'y a pas de consensus et de protocole type dans ce cas. Hein, ça n'a jamais été démontré. La seule chose, c'est que quelquefois, le fait que la personne ait vu quelqu'un avant, il y a un côté un petit peu éducatif, déculpabilisant, d'information. Voilà. Donc, ça peut être une consultation. Voilà, si ça n'a pas été fait auparavant, mais je vois que vous avez des très bonnes infirmières qui sont chargées de tout ça en préopératoire. Et autrement, post-op, je fais relativement peu de rééducation. Quand j'en fais, je fais peu de séances. Parce qu'en fait, effectivement, ils ont surtout besoin d'être assurés, d'être informés, de reprendre un petit peu contact. Laissons le temps au temps, d'une part. Et il y a un travail qui se... Il n'y a pas de problème vraiment de problème au niveau périnéal proprement dit, puisque l'homme n'a pas subi d'intervention en général, mis à part de grosses plaies traumatiques. Mais autrement, il arrive avec des muscles sains, donc périnée est sain. Il a en général une très bonne proprioception, ou sinon une séance suffit pour expliquer. Et il fait très bien ses exercices à la maison. Donc c'est vraiment de l'information, du calendrier mictionnel, comment je bois, etc., la régulation des mictions, une petite information sur des petits exercices simples à faire à la maison. Et on fait des rééducations, très souvent une ou deux séances qui les rassurent aussi, de venir faire quelques fois un petit peu le point comme ça, et sur des exercices qui vont être globaux. Mais c'est vrai qu'on ne fait pas 10, 15 séances de rééducation avec des sondes anales, etc. Ça n'a jamais montré son efficacité. Donc voilà, on est vraiment plus sur l'information et d'apprendre à faire des petits exercices à la maison. Ça a l'avantage qu'il ait quelque chose à faire et qu'il se sente actif de son traitement. Donc ça, c'est intéressant. Et les exercices, bon, j'en ai pas parlé là, mais il y a un gros travail au niveau abdominal qui est intéressant à faire. Donc ça lui fait des exercices qui permettent de tonifier toute cette zone-là sans avoir de travail invasif. Et tout un travail sur l'équilibre et la posture, ce n'était pas le sujet d'aujourd'hui, mais qui est super intéressant à faire et beaucoup plus intéressant que ces techniques un petit peu anciennes. Donc un travail global sur la posture et l'équilibre qui entraîne un travail assez intéressant au niveau périnéal. Donc voilà, une petite séance avant éventuellement, quelques séances après, mais voilà.
Oui, alors on nous demande justement, ça tombe bien, vous y avez un peu répondu, Madame Pavie-Lebrun, si en faisant des exercices plutôt jeunes, on peut éviter l'incontinence urinaire. En faisant des exercices chez soi, à la maison, par exemple.
La prévention, elle est multiple. On vous a détaillé tous les facteurs de risque tout à l'heure. Donc voilà, je ne suis pas gros, je ne fais jamais d'efforts, je ne fais pas de sport hyperpressif, je ne fume pas, je ne tousse pas, je n'ai pas de traumatisme obstétrico, je n'ai pas de traumatisme chirurgicaux. Si on voulait faire après, le balbandel de papillon, on ne va pas forcément déclencher un cataclysme. Hein. Donc...
Il faut être modeste sur la prévention en faisant des exercices soi-même. Malheureusement, ça ne marche pas. On n'a pas montré que ça marchait. La rééducation est un traitement efficace quand on souffre du symptôme et quand elle est indiquée pour le bon type d'incontinence urinaire. Je ne peux pas vous promettre que de faire des exercices alors que vous n'avez pas de fuite vous protégera plus tard. Malheureusement, je n'ai aucune preuve de cela.
Par contre, on peut prévenir en diminuant les facteurs de risque dont on a parlé.
Donc la cigarette, l'obésité, etc. Pour résumer. Est-ce que vous avez des... Voilà, j'arrive. Pendant que je me déplace, parce que j'ai eu les lancements, on me demande aussi si c'est héréditaire. Les incontinences sont héréditaires.
Il y a probablement une composante héréditaire sur la qualité des tissus, la qualité du collagène.
Allez-y.
Je suis Gouguec Gérard, j'ai 78 ans. J'ai été opéré de la prostate en totalité en 2008. Je commence à avoir des fuites maintenant. Comment se fait-il? Que dois-je faire?
Alors, les fuites qui surviennent 6 ans après une prostatectomie, a priori, la prostatectomie n'est pas le principal coupable. Évidemment, il y a eu une fragilisation de la région périnéale, mais si ça commence aussi tard, il va falloir chercher une cause. Alors que quand c'est quelque chose qui apparaît immédiatement après l'opération, on ne va pas aller faire un bilan complet pour comprendre ce qui se passe. Là, c'est conseillé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est facile. Vous prenez votre téléphone et prenez un rendez-vous. Et on vous dira ce qu'il faut faire. Il faut voir un urologue.
Devant le micro.
J'ai été opéré au Val-de-Grâce et on m'a proposé de faire des séances de périnéales.
De rééducation périnéale.
Oui. Alors, est-ce que je peux aller voir un kiné? Quel kiné faut-il que j'aille voir?
Ah oui, alors ça s'appelle une consultation privée, ce que vous faites, monsieur. Oui, tout à fait. Donc, on a dit qu'on parlait de façon générale.
Ouais, on parle de question de façon générale.
Non, là, je ne peux pas vous répondre comme ça. Mais de toute façon, si vous avez déjà vu un médecin et qu'il a pris le problème et évalué votre dossier, bon, il n'y a plus à en discuter de façon personnelle pour vous, mais de façon générale, votre question, ce que je pourrais répondre, c'est que quelqu'un qui a une incontinence qui apparaît 8 ans après une prostatectomie, bah, il faut essayer de comprendre ce qui se passe, si c'est brutal et que ça apparaît 8 ans après.
Donc consulter, en fait. Pardon. Hop là.
Bon, moi, je suis sage-femme. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord à ce que vous nous expliquez qu'il n'y a pas de prévention. La prévention, pardon, bien dans le micro. Il y a énormément de prévention à faire parce que, comme sage-femme, on voit les patientes à la sortie de la maternité, on les rééduque après les accouchements. Donc, c'est à ce moment-là qu'on j'ai bien écouté vos conseils de posture, de quand elles éternuent, quand elles toussent. Donc, quand on les a préparées à refaire du sport correctement ensuite, elles ont leur prévention. Pour ne pas ensuite, dès qu'elles ont 3 gouttes, parce qu'on n'a pas parlé de la quantité de fuites d'urine, je dis dès que vous perdez 3 gouttes, vous revenez. Enfin, on voit ce qui se passe. Donc, on va éviter. Et moi, je trouve que 65 ans pour vieillir en forme, c'est très tard. À mon avis, il faudrait voir les patientes à la ménopause. Beaucoup plus tôt. Beaucoup, on a beaucoup d'incontinence. Enfin, moi, je vois dans ma famille, à 40, 50 ans, ils ont des bains. Oui, c'est normal, c'est ma ménopause. Eh bien, c'est là qu'il faut consulter et commencer à faire du sport, continuer à faire du sport tout le temps. On ne peut pas s'empêcher de tousser quand même. Par contre, ne pas perdre de poids, les conseils nutritionnels, diététiques. Donc, moi, je pense que 65 ans, c'est très tard. Il faut le faire beaucoup plus tôt.
Alors, le 65 ans, ne confondons pas.
C'est trop tard.
C'est un projet de recherche. C'est un projet qui s'adresse à une certaine population pour une intervention qui est de l'éducation en santé. Bien sûr, j'ai eu ces critiques plusieurs fois, c'est-à-dire qu'on aurait pu recruter des patientes plus jeunes, mais le fait scientifique fait qu'on choisit une population qui est la plus à risque pour tester une intervention d'éducation en santé. Ne veut pas dire que ça ne pourrait pas marcher sur d'autres sujets. On est dans un autre domaine.
Attendez, le micro, j'arrive, je vous le retends, je le garde avec moi, je vous le tends.
Est-ce que vous avez fait des statistiques sur le nombre de personnes qui ont été rééduquées après les accouchements ou que vous voyez à la ménopause pour des traitements ou des choses? Est-ce que tout le monde est rééduqué? Et éduqué, pardon, pas de rééducation, éducation.
Alors, je suis désolé de vous décevoir, hein. Je sais que c'est une croyance qui est importante, que si on fait ces exercices après l'accouchement, on va se protéger de l'incontinence du sujet âgé. Il est très probable qu'il y a des incontinences différentes selon les âges et que l'incontinence du sujet jeune, de la femme qui a des enfants, est très différente de celle du sujet âgé. C'est pour ça que les ateliers, les traitements ne sont pas les mêmes. Chaque traitement est dédié à un type d'incontinence urinaire et à un âge également. Les exercices que vous ferez, parce qu'il y a une incontinence urinaire qui est apparue pendant la grossesse, parce que c'est très fréquent qu'elle apparaisse pendant la grossesse ou en postpartum, ne sont pas les mêmes traitements que vous ferez à 65 ans ou à 70 ans. Ce n'est pas la même chose. Et l'un et l'autre n'ont pas toujours un lien causal. C'est-à-dire que l'idée de se dire c'est la même maladie tout au long de la vie, malheureusement, ce n'est pas la bonne idée.
J'ai plein de questions. Si vous en avez d'autres, vous levez la main. On me demande, est-ce qu'il y a une relation entre l'incontinence et les infections urinaires ? Et est-ce que l'un peut entraîner l'autre ?
Alors, il peut y avoir un lien avec un type un peu particulier, un type d'incontinence qui est lié à une obstruction. Quand on a une difficulté à uriner, quand on a une difficulté à vider sa vessie, ça touche très souvent l'homme, hein, mais ça peut toucher la femme. On sait qu'on augmente son risque d'incontinence urinaire. Il y a aussi que les signes de l'infection urinaire sont très proches d'un syndrome qu'on appelle le syndrome d'hyperactivité vésicale, qui est proche de l'incontinence par urgenturie. Donc c'est là où il y a des liens. Il y a de la recherche qui se fait pour savoir si certaines bactéries pourraient être impliquées dans ce syndrome d'hyperactivité vésicale, mais il n'y a pas de réponse concluante encore, à l'exception peut-être de la prostatite chez l'homme, non ?
Alors, la prostatite chez l'homme, non, elle n'est pas vraiment responsable d'incontinence, mais si on va rester maintenant dans le quotidien, dans le simple, en dehors de la recherche, c'est vrai que la cystite infectieuse, donc inflammation de la vessie, peut se révéler de plusieurs façons. Alors, il y a les façons les plus habituel que tout le monde connaît, hein. On va souvent uriner, quand on a envie d'uriner, il faut y aller vite, on pisse trois gouttes, c'est des lames de rasoir, etc., etc. Et des douleurs du bas-ventre. Ça, c'est le tableau complet. Après, il y a des personnes qui présentent des tableaux, alors chez les hommes aussi, qui présentent des tableaux qui sont partiels, c'est-à-dire qu'il y a un élément qui est prédominant, et ça peut être cette envie pressante d'uriner qui va donner un peu ce qu'on a décrit tout à l'heure sur la vessie impérieuse, et avec des fuites éventuelles. Mais normalement, lorsque l'on a traiter l'infection, ça devrait disparaître. Donc, ce n'est pas un cercle vicieux. Aujourd'hui, on n'a pas mis en évidence que ces incontinences qui donnent une infection, l'infection redonne l'incontinence et on n'en sort pas. Donc, il ne faudra pas accuser forcément les infections urinaires récidivantes, qui sont également quelque chose de très fréquent, mais pas le sujet du jour, d'être responsable de l'incontinence.
Alors, on me demande aussi beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui m'écrivent en me disant « j'urine peu le jour, mais beaucoup la nuit ». Est-ce que c'est un signe d'incontinence ? Est-ce qu'il faut consulter ? Que dois-je faire ?
Alors, c'est un phénomène qui peut arriver, en particulier chez le sujet âgé. Vous savez que, normalement, si vous ne le levez pas la nuit, c'est qu'il y a une, c'est parce que votre rein fonctionne moins la nuit. Et avec l'âge, cette régulation du fait qu'il fonctionne moins la nuit peut disparaître. Et ça peut donner le fait qu'on se lève souvent, ce qui a un impact sur le sommeil. Ça peut même aller jusqu'à des fuites. Il y a un terme qui s'appelle la nycturie. Et ça peut répondre éventuellement à un traitement médical.
Il faut faire attention à ne pas confondre, quand on dit uriner beaucoup la nuit, la quantité. Et le fait d'aller uriner la même quantité qui n'est pas importante, mais plusieurs fois par petit volume. Et là, pour faire la différence, est-ce qu'on peut donner le micro un instant à une de nos infirmières ? Parce que je leur ai promis qu'elles allaient parler un petit peu quand même. Qui peuvent expliquer comment elle donne un calendrier mictionnel aux patients.
Qui ?
Alors, on lève la main s'il vous plaît, Stéphanie, Karina, merci. Alors, est-ce que tu peux nous parler du calendrier mictionnel ?
Eh bien, bonsoir. Le calendrier mictionnel vous est remis à la consultation d'urologie. Donc, c'est un tableau qui est en général fait sur 2 jours. Vous quantifiez la quantité que vous buvez, tout liquide confondu, et au même moment, et vous quantifiez également la quantité que vous urinez, en précisant si vous avez eu des fuites, si vous avez eu des impériosités, etc.
Et donc, on rapidement, quand vous nous ramenez ça, on fait le calcul. Si vous urinez 500 ml le jour et 2 litres la nuit, on sait qu'effectivement, là, vous avez une polyurie nocturne, donc vous urinez en volume plus la nuit. Par contre, si vous urinez 500 ml la nuit, mais que vous levez 4 fois et que chaque fois, c'est quelques dizaines de millilitres, ben à ce moment-là, ça porte un autre nom barbare médical qui est la polylactiurie, c'est-à-dire on va souvent uriner, mais pas forcément beaucoup. Donc, c'est vrai que ce n'est pas évident pour un patient ou une patiente qui arrive à la consultation, de faire la différence entre les deux. Et je crois que les premiers qui sont en ligne pour ça, c'est les médecins généralistes, parce que quand les patients ou les patientes arrivent et leur disent « on urine beaucoup la nuit », je pense que c'est la première question qu'ils leur posent. Je ne sais pas si vous avez une expérience particulière là-dessus.
Je dirais aussi que dans les habitudes alimentaires, on va vérifier s'il n'y a pas un petit problème de ce côté-là.
La tisane,
le thé vert. Voilà, ouais, le thé vert ou la tisane. Et en effet, le calendrier mixtionnel va permettre de faire le tri entre une impression, un symptôme réel, une quantité, en effet, une différence de quantité entre le jour et la nuit. Oui.
Alors, on a beaucoup de sportifs, sportives également dans la salle. Beaucoup de papiers aussi sous la main. On me demande, alors, à propos du sport, entre autres la Zumba, est-ce que c'est parce que c'est trop sautillant, qu'il y a trop de vibrations, que ça crée des fuites urinaires? Ça peut en créer, en tout cas. C'est une question qui est revenue au moins 4 fois. Quand je vous dis qu'il y a du sportif, il y a du sportif.
Alors, Louis, il faut peut-être préciser ce que c'est la Zumba, parce que tout le monde ne sait pas. Hein.
Tu fais une démonstration?
Alors oui,
ou pas?
Je vais vous demander de faire une démonstration, professeur. La musique, de la danse, le rythme brésilien. Voilà.
Alors oui, le sport est une activité à risque, et en particulier pour vous, mesdames. Il y a différents types de fragilité liées au sport, donc ça dépend effectivement du type de sport incriminé. La première sollicitation, c'est tout ce qui est à base de course et de saut, donc le basket, le handball, l'athlétisme, la course à pied, le jogging, la zumba,
le cheval,
je danse en me sautillant.
L'équitation aussi,
le non. Step.
Et le step, le bon vieux step évidemment, hein, qui est toujours aussi dans nos salles. Donc là, ce qu'il y a, c'est que vous avez une grande mobilité vers le bas. À chaque fois qu'on bouge comme ça, vous avez une sollicitation et la vessie bouge effectivement vers le bas. Et si les petits ligaments qui sont notre ceinture de sécurité, qui sont chargés de maintenir la vessie à sa place, sont un petit peu détendus, eh bien effectivement, à force de faire une grande sollicitation comme ça, vous avez la vessie qui bouge un petit peu trop vers le bas. Donc ce qu'on appelle l'hypermobilité, elle bouge trop vers le bas, et au moment où elle descend, il peut y avoir une fuite urinaire à ce moment-là. Donc c'est défini comme effectivement un continence urinaire d'effort. Le deuxième risque du sport, c'est les sports qui vont augmenter la pression à l'intérieur du ventre. Donc mon ventre, c'est une petite boîte avec une certaine pression à l'intérieur. J'ai certains exercices qui vont augmenter de façon très importante la pression dans ce ventre. Si je suis couchée, je vais avoir une pression qui va être à peu près de 30 mm mercure. Et si je fais des bons vieux abdominaux traditionnels, des bons vieux crunch, etc., je vais monter à 250-300 pressions mm de mercure de pression à l'intérieur de mon ventre. Donc c'est cette pression qui pousse sur mon ventre et qui pousse effectivement sur ma vessie. Donc c'est le deuxième risque. Donc on va trouver ça sur tous les ports de charge, les abdos, les bons vieux abdos traditionnels. Et puis le troisième risque du sport, c'est l'hyperlaxité. Ça veut dire faire des étirements, c'est bien, mais comme un ressort ou un élastique sur lequel on a tiré trop ou trop longtemps, et ben votre élastique, il reste détendu. Donc faire le grand écart, faire des grandes souplesses dans tous les sens, en particulier au niveau du bassin, très jeune ou trop longtemps ou trop tard, et bien effectivement, vous étirez les ligaments. Les ligaments, c'est comme un ligament de cheville. S'il est trop distendu, il ne va pas maintenir votre cheville. Ben, si les ligaments qui soutiennent vos organes sont distendus, et ben, ça va aussi fragiliser tous les organes qui sont au niveau pelvien. Donc tout ce qui est à base de sauts et de courses pour l'hypermobilité, tout ce qui est à base type d'abdos et de gros efforts pour l'hyperpression, et tous les gros étirements avec les grandes souplesses, en particulier chez les femmes. Donc là, on retrouve la gymnastique, tout ce qui est gym artistique, gym sportive, les patineuses. Dans l'hypermobilité, c'est toute la course, le sport, le basket, le handball qui sont préconisés. Et puis après, les bons vieux abdos et l'haltérophilie pour répondre à une question sur l'équitation, c'est pas forcément un sport à risque.
Alors, je veux pas qu'on se trompe de message. Hein, le pire, c'est la sédentarité. Hein. L'activité physique est bénéfique aux muscles, dont les sphincters. Hein. Globalement bénéfique.
C'est exactement pour le même problème que pour le mal de dos. On a plus de personnes qui ont mal au dos, qui ne font pas de sport, que ceux qui font du sport. Donc là, c'est pareil, on a plus de risques d'avoir des incontinences urinaires si on ne fait pas de sport. Mais je parle d'activité physique, je ne parle pas du sport de haut niveau.
Donc ne pas résilier sa carte d'abonnement. Alors, pas mal de questions personnelles, donc je vais essayer de vous les poser. Si vous pouvez y répondre, vous y répondez. Si vous pouvez faire des généralités, c'est très bien aussi. Je vais essayer de vous donner un maximum de détails à chaque fois. J'ai un sphincter artificiel depuis, pas moi, la personne, depuis 2009, qui ne fonctionne plus ou très mal. Il y a un contrôle récent qui a été fait qui n'a pas permis de régler le problème, et qui l'a plutôt même aggravé. Et malgré les protections, cette personne est toujours mouillée.
C'est ce que je disais sur le problème des sphincters artificiels.
Viens prendre le micro, s'il vous plaît, professeur.
Oui. Je l'amène carrément ici. Le problème des sphincters artificiels, c'est que c'est un appareil qui est un corps étranger qui va constituer un volume pas négligeable, qu'il y a des pièces qui peuvent tomber en panne, qu'il peut y avoir des infections, qu'il peut y avoir des rejets de la part des tissus qui font qu'à un moment donné, eh bien, il ne fonctionne plus. Alors, on peut souvent le réparer, en changer une pièce, mais pas toujours. Donc, malgré cette amélioration des techniques actuelles que nous avons, on ne peut pas dire qu'on va régler les problèmes dans 100% des cas. On peut les améliorer très souvent, les régler complètement dans un nombre non négligeable de cas et de plus en plus fréquents, mais il y a toujours des situations difficiles.
Une autre question. J'ai un PSA de 1,3, du diabète. Je suis incontinent, j'ai 69 ans. Qu'est-ce qui se passe ?
Alors, je vois qu'il y a beaucoup de questions pour les hommes.
Hein. Oui.
Le diabète est un facteur de risque pour avoir une vessie neurologique. Vous savez que le diabète est une maladie qui ne consiste pas simplement à avoir le taux de sucre qui est augmenté, et parfois même un peu trop bas, mais c'est qu'il peut y avoir des atteintes multiples. En fonction des personnes, c'est très variable. Évidemment, le mieux, c'est d'équilibrer le mieux son diabète. Il peut y avoir des atteintes au niveau de l'œil, il peut y avoir des atteintes au niveau des artères, il peut y avoir des atteintes au niveau des reins, et également une atteinte de la vessie sur le plan neurologique, c'est-à-dire qu'on va avoir une vessie qu'on appelle neurologique, c'est-à-dire mal innervée, avec une mauvaise réponse dans les situations par rapport à une vessie normale. Et entre autres, il peut y avoir une incontinence due le plus souvent au fait que c'est une vessie instable ou hyperactive, et parfois aussi parce qu'il n'y a pas une bonne coordination entre les contractions de la vessie et le relâchement du sphincter et inversement. Donc, quand c'est dû au diabète, alors, c'est pas parce qu'on a un diabète que l'incontinence est forcément due à ça, mais ça fait partie des hypothèses qu'on regarde, et ça peut participer. Il peut y avoir un ensemble de choses, il peut y avoir effectivement le diabète, plus ceci, plus cela, et l'ensemble fait qu'il y a une incontinence qui est relativement majeure. Et en commençant à s'occuper d'un problème après l'autre, on améliore les choses sans que forcément on va régler la situation encore une fois à 100%.
Question suivante. Après la pose d'une bandelette il y a 10 ans sans effet positif, est-il possible d'avoir la pose d'une autre bandelette ou y a-t-il une autre solution pour une incontinence d'effort ou incontinence de vessie instable ?
Je pense que Jacques sera d'accord avec moi. C'est pas possible de répondre. On est dans un échec, ça demande une expertise. Tout est possible.
D'accord, donc il faut consulter.
Mais en ce qui concerne le principe, le concept de pouvoir mettre une deuxième bandelette, je vais demander au docteur Charles de nous dire un mot, parce qu'il a fait une étude là-dessus quand il travaillait à Strasbourg.
Merci de me passer la parole. Donc, une bandelette, ça va être un filet que l'on va mettre le plus souvent chez la femme sous l'urètre, c'est-à-dire la partie qui va entre la vulve et la vessie, porter le sphincter et assurer la continence. Le sphincter, c'est le muscle qui va servir à permettre de retenir les urines, et souvent, avec le vieillissement, il est moins efficace et il peut y avoir une incontinence urinaire d'effort. Donc, oui, on peut poser une deuxième bandelette, mais effectivement, comme l'a dit le professeur Frittel, ça nécessite que si on décide de faire cette intervention, on s'entoure de multiples précautions, parce que ça veut dire qu'il y a déjà eu un échec d'une chirurgie et qu'on ne va pas rajouter de la complication à déjà quelque chose qui ne marche pas. Du coup, il y aura beaucoup d'examens. Ce que je dis souvent, c'est que c'est quelque chose qui va prendre du temps avant qu'on prenne la décision. Il va y avoir beaucoup d'examens à faire avant qu'on dise oui, on est dans le cas où on peut en poser une seconde. Il y a On a de plus en plus de solutions dans ces situations-là, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne va pas forcément tout régler en une fois, qu'il y aura de multiples consultations, de multiples examens, mais on peut vous proposer des solutions si vous êtes dans ce cas-là.
C'est typiquement ce genre de situation qu'on discute dans nos réunions pluridisciplinaires, et parfois avec des appréciations qui ont besoin en effet de plusieurs avis. Différents et des différentes spécialités qui interviennent autour de la question.
Une personne me dit, j'ai une descente de vessie depuis quelques années, quelle suite à donner? Est-ce que la kiné peut être une solution? Est-ce que le kinésithérapeute peut intervenir?
Je vais passer la parole à Mme Paville-Lebrun. La kiné est effective sur les symptômes du prolapsus, hein, parce que quand on parle de descente de vessie, c'est du prolapsus.
Alors, en première intention, c'est vrai que la kiné peut être intéressante. On peut avoir un effet curatif. Tout dépend de la motivation de la patiente aussi à faire ses exercices sur une cytocèle. Après, tout dépend aussi au niveau de l'importance du grade. Donc, c'est-à-dire, est-ce que c'est descendu un petit peu, moyen, beaucoup? Voilà. Donc, sur un cytocèle débutant ou de grade 1 à 2, on peut avoir un effet curatif après.
Alors, ce que je veux dire, on s'éloigne un peu de l'incontinence, on est dans le prolapsus génital de la femme, c'est-à-dire des organes qui descendent, du vagin qui se déroule. Ce que je veux dire, c'est que c'est jamais des situations d'urgence où le traitement il est jamais obligatoire. Donc ça va dépendre de la gêne et la variété des traitements vont de la kiné, hein, on a parlé des PCR, vous en avez parlé, à la chirurgie. Mais la chirurgie, elle n'est jamais faite sous... Ce n'est pas une étape obligatoire. Ça va dépendre beaucoup de la gêne ressentie. Voilà. Et vous parliez des PCR, c'est quelque chose qui, c'est un vieux traitement qui se redéveloppe.
C'était intéressant comme question parce que je voudrais insister sur le fait qu'il y a un peu un amalgame qui est fait entre les descentes d'organes et l'incontinence urinaire. C'est deux choses différentes. Elles peuvent être associées, bien sûr, mais on peut avoir une descente d'organes sans incontinence urinaire. Là, on parle des femmes. Une incontinence urinaire sans descente d'organes est bien plus, on va dire, étonnant sur le plan intuitif. Quand on traite une descente d'organes, on peut dévoiler une incontinence urinaire qui n'existait pas. Donc, il ne faut pas... Et souvent, je vois bien que les dames consultent avec un peu la même idée que la descente d'organes et l'incontinence, c'est un peu la même chose, quoi. Ça ne l'est pas.
Il nous reste encore quelques minutes pour poser des questions. Alors, au top 50 des questions les plus posées, voici la numéro 1, celle qui est revenue la plus. Est-ce que le fait de se retenir longtemps d'aller uriner est un facteur à risque d'incontinence plus tard? Les toilettes se trouvent sur la gauche.
Alors, il y a... C'est vrai, c'est un cas très particulier, c'est une... grosso modo, non. Il y a une situation où on peut voir des femmes en particulier qui ont pris l'habitude d'uriner très rarement parce que les conditions, en particulier professionnelles, les poussaient à ça. Et avec le temps, la vessie peut se fatiguer. Mais je ne suis pas capable de généraliser de cet exemple qu'on voit du fait de se retenir d'habitude dans sa vie de tous les jours. Après, la solution de secours serait le calendrier mictionnel pour savoir le nombre de mictions et le volume qu'il y a dedans. Et c'est comme ça que je pourrais répondre à la question plus précisément si ça dépasse la physiologie vésicale, la capacité vésicale normale.
On a beaucoup évoqué la recherche, les avancées, les progrès. Où en est la recherche? C'est également une question qui est posée. Merci d'avoir posé.
Merci. Alors, ce qu'on vous a présenté, il y a vraiment des choses qui sont issues directement des progrès de la recherche. Hein. L'utilisation du Botox, donc a parlé le professeur Irani, l'utilisation de la neuromodulation sont des traitements nouveaux. Du point de vue médicamenteux, il y a des développements, on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a des développements médicamenteux en cours sur les médicaments. Et la chirurgie, moi j'ai l'impression qu'elle a fait des bons, des progrès énormes au cours des dernières années, et je pense que ce n'est pas terminé. Et j'ai essayé aussi de vous montrer que la recherche, ce n'était pas que dans le traitement médicalisé, qu'on faisait aussi de la recherche en éducation, en santé, en prévention. C'est-à-dire que
ou en traitement avant le passage au traitement médical sur l'éducation à la santé, comment faire attention à son corps et au fonctionnement de sa vessie.
Alors, en ce qui concerne la recherche beaucoup plus à long terme, ou en tout cas à moyen terme, il y a effectivement choses qui sont beaucoup plus originales, qui sont en cours de préparation, mais il ne faut pas s'attendre à les trouver effectives l'année prochaine, comme par exemple la culture de cellules musculaires au laboratoire que l'on pourra injecter dans le sphincter pour le renforcer. Ça, c'est quelque chose on a cru à un moment qu'on y était arrivé. Il y a eu des publications qui ont été faites dans ce sens et finalement, ça a été un grand scandale de faux en publication médicale puisque quand on est allé voir ça de près, les résultats n'étaient pas vrais. Mais ça n'empêche que c'est une voie, par exemple, de recherche qui probablement va parvenir un jour à s'imposer. Demain, on n'aura pas le comprimé qui fait que vous allez prendre un comprimé et vous allez passer du statut d'incontinent au statut de continent. On n'y est pas encore. Ce n'est pas en 2015 ni en 2016.
Je reviens là-dessus parce que les cellules souches, c'est vraiment très intéressant. Il y a trois équipes, hein, dont une équipe française qui travaille dessus, qui continue à travailler sur ce sujet-là.
Merci. D'autres questions ? Ah, papa, j'arrive.
Merci, pardon. Est-ce que la respiration hypopressive a beaucoup d'avantages ?
Alors, un petit mot sur ce que c'est, d'abord.
En fait, il y a une gymnastique qui a été créée il y a à peu près une trentaine d'années et qui est basée sur un travail différent au niveau des abdominaux. Donc, à l'inverse des abdominaux traditionnels qui augmentent beaucoup la pression à l'intérieur du ventre, donc ils peuvent appuyer sur les organes et déclencher ou des descentes d'organes, comme on l'a expliqué tout à l'heure, ou des problèmes urinaires. Et bien, la gymnastique hypopressive, c'est une gymnastique différente au niveau des abdominaux qui va faire baisser, diminuer la pression dans le ventre. Donc, à l'inverse de pousser sur son ventre, au contraire, on maintient et on travaille le côté gaine que nous réclament tous les sportifs, le fameux gainage. Il y a un effet de traitement sur une descente d'organes à un stade pas très important. Et donc, c'est une gymnastique qui renforce le tonus périnéal. Donc, c'est un outil de rééducation périnéale. Donc, on dit gymnastique abdominale, mais c'est un outil de rééducation périnéale puisqu'on augmente le tonus du périnée en même temps que sa sangle abdominale. Donc vous faites une pierre deux coups. Vous fuyez moins et vous avez diminué votre tour de taille, c'est pas mal.
Quelqu'un souhaite rajouter quelque chose ? Ou pour conclure ?
Caroline, vous aviez une question ?
Madame Pavy-Lebrun a parlé du bilan aérodynamique et vous n'en avez pas parlé du tout. Est-ce que c'était volontaire ?
Alors, j'ai pas dit tout ce qu'on faisait en expertise. On fait des échographies, on fait des cystoscopies, on fait le bilan aérodynamique. C'est un des aspects de l'expertise qui est le mieux connu, qui est le plus connu, qui consiste à remplir la vessie pour évaluer son fonctionnement. Ça fait partie des outils. On a montré moins nos outils que Madame Pavy-Lebrun, mais ça fait partie. Voilà, mais peut-être parce qu'ils sont très nombreux et qu'on ne pouvait pas tout faire, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique. Il n'est pas toujours obligatoire de le faire, mais en particulier dans l'urgenturie ou dans l'incontinence récidivée. Et je pensais par exemple de l'exemple de cette incontinence qui récidive après la pose d'une bandelette 10 ans avant. C'est un des examens probablement qu'on fera.
Merci. À vous. Merci à Jacques Irani, Xavier Fritel, Stéphanie Gancolin et Michel Pavy-Lebrun pour vos réponses. Merci à vous. Merci à l'organisation, le CHU et l'Espace Mendès France, l'équipe technique, les traducteurs en langue de signes qui ne sont pas restés bien longtemps puisqu'il n'y avait pas de public sourd. Merci à vous. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter l'ensemble de ce pôle info santé sur le site internet du CHU ou de l'Espace Mendès France. Pensez à bien remplir les formulaires que l'on vous a donnés qui vont nous permettre de faire encore mieux. On va vous laisser tranquille pendant tout l'été, puis on va se retrouver pour deux rendez-vous avant la fin de l'année. Le 4 décembre, ce sera le dernier, avec une thématique qui, je le sais, va vous intéresser, qui sera consacrée aux AVC. Et puis juste avant, on se retrouvera le 16 octobre avec les anesthésies, différentes anesthésies et différents intervenants qui seront là pour vous répondre. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Je dis un dernier mot.